Alors dimanche, c'est le premier tour des législatives.
Je demande aux Français de m'élire Premier ministre.
Alors à gauche, pour la première fois de ma vie.
Le Conseil national du PS a tranché et a validé cet accord à plus de 62% des suffrages.
Un accord historique a été signé.
Comment avez-vous reçu ce vote, François Hollande ?
L'union, d'abord, elle est souhaitable.
La nouvelle union populaire, écologique et sociale.
L'union, elle est souhaitée par les électeurs de gauche, en tout cas.
Et dans mon coin, la deuxième circonscription du Rhône, le candidat NUPES, c'est Hubert Julien Laferrière.
Merci François Merci. Hollande d'avoir été à notre micro
Merci
ce
à vous.
Matin.
Hubert Julien Laferrière, bonjour, vous êtes
bonjour.
député tout nouveau membre de Génération Écologie. Alors vous avez été successivement socialiste, membre du PS, vous avez été militant macroniste, et c'est à ce titre que vous avez été député, et on vous a ensuite connu dissident de macronisme, vous avez rejoint même le très éphémère groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, et là on vient de vous propulser vice-président du parti. Que préside
porte-parole,
c'est la même chose. Que préside l'ancienne ministre Bateau.
En fait, il a tout fait, quoi.
À mes côtés, Hubert Julien Laferrière, député sortant, élu LREM en 2017, mais candidat de la NUPES à ses élections en 2022.
Pas bien compris, là. Macron ou NUPES ?
Il vaut mieux rester fidèle à ses engagements en changeant de parti que rester dans le même parti en trahissant ses engagements.
Toujours pas bien compris, là. Hubert Julien Laferrière, historique de vote.
La séance est ouverte.
1er février 2018, a voté pour la motion de rejet préalable déposée par Richard Ferrand sur la proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. C'est vrai qu'on va quand même pas parler du droit à l'eau dans la Constitution. Pas comme si on avait une crise climatique qui était déjà commencée. Même jour, a voté contre l'idée d'un référendum pour ratifier le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Attends, il disait quoi tout à l'heure déjà ?
Il vaut mieux rester fidèle à ses engagements en changeant de parti que rester dans le même parti en trahissant ses engagements.
Donc si on l'écoute, il va nous faire du Macron dans la NUPES. Alors mercredi, je me baladais à la Croix-Rousse, à la recherche d'un vrai candidat de gauche. Et je suis tombé sur le meeting de Raphaël Arnaud.
Bon, ça, ce truc des rapports de classe, ce truc de la baston contre Total qui s'annonce et contre d'autres...
Il y avait Usul.
Je pense que la candidate que je suis allé voir sur ma circo, elle a compris. Je suis pas sûr que le candidat investi NUPES qu'on vous a foutu sur cette circo l'ait très bien compris. Voilà. Quelqu'un qui a été capable de faire confiance à Macron, le candidat de la bourgeoisie, où tout le monde avait compris que c'était le candidat de la bourgeoisie, quelqu'un qui peut se planter à ce point, moi, même si j'étais macroniste...
Il y avait de la pluie.
Et que j'avais voté pour lui, il a déjà trahi une fois dans un sens. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Je sais pas, c'est pas fiable, en gros. Donc voilà, moi j'avoue, je suis ici en soutien du coup avec Raphaël Arnaud et Mathilde, parce qu'on va avoir besoin d'alliés clairs, d'alliés concrets dans les luttes qui vont se dessiner à l'Assemblée, ailleurs. Il va falloir rendre coup pour coup contre les capitalistes, contre les bourgeois, contre les fascistes aussi. Et là aussi, là-dessus aussi, la candidature de Raphaël Arnaud a fait sens, il me semble.
Il y avait Poutou.
Il y a le vote pour Raphaël et Mathilde, en espérant qu'il y ait le plus de candidatures, le plus possible de députés qui soient vraiment les porte-parole du mouvement social, des députés qui représentent la rupture avec toutes les politiques libérales, les politiques capitalistes. Mais derrière, de toute façon, on n'y coupera pas. Il y aura les manifs, les luttes, la construction d'une gauche de combat, d'une gauche anticapitaliste. C'est la perspective aujourd'hui. Et même s'il pleut, même s'il grêle, même s'il y a de l'orage, je crois qu'on peut espérer qu'à un moment donné, les choses vont changer.
Et il y avait du monde.
Bon, je suis militante France Insoumise, je suis Sarah. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'assumer, de dire clairement je suis militante France Insoumise et pourtant je milite pas pour la NUPES. On m'a fait beaucoup de remarques. Mais en fait, j'ai la rage, j'ai vraiment la rage parce que dans cette circo, j'ai vu un candidat, littéralement, qui a voté des lois comme le CETA, des lois asile immigration. Et aujourd'hui, je le vois dans la rue avec des tracts, avec la tête de Mélenchon dessus, je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre, je peux pas l'accepter. Ouais, allez-y, ouais. Non, vraiment, en fait, aujourd'hui, ce qui est beau avec cette campagne, c'est qu'on milite vraiment pour un militant de Lyon, qu'on connaît depuis des années, qui nous a fait chanter dans la rue, qui nous a poussé à nous démener, à organiser des manifs, à sortir chez nous et à se battre. Et en fait, c'est ça qui est fort pour nous. C'est pas de se battre pour un politicien qui retourne sa veste tous les deux ans. L'autre fois, sur un marché, j'ai croisé des militants LREM qui m'ont dit « Putain, ça nous fait tout drôle. Il y a 5 ans, on a milité pour la Ferrière et aujourd'hui, on voit militer pour la NUPES. Ça nous fait bizarre quand même. » Et moi-même, franchement, je suis allée les voir et je leur ai dit « Mais on milite pas pour eux. » Sachez que la Ferrière, quand il manque de militants, nous on est heureux parce que la base militante de la France Insoumise, elle est là. Elle est derrière Raphaël, elle n'est pas derrière la Ferrière. Et ça, ça nous donne de la force. Parce que tous nos GA comme on dit, nos groupes d'action, la France Insoumise, on est rassemblés, on est là pour Raphaël. Et clairement, dès le début, quand il s'est proposé, on a dit on y va, on fonce, on te connaît, on a confiance. Et ça, pour nous, d'avoir confiance en quelqu'un, c'est précieux, c'est une force. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites passer le mot autour de vous, je ne vais pas m'éterniser, on attend surtout Raph. Mais vraiment, faites passer le mot, militez si vous voulez venir militer, il nous reste 2 jours, on fait tout ce qu'on peut, on va jusqu'au bout et on espère faire un beau score.
Merci, je pense qu'on peut faire beaucoup de bruit pour tous ces militants, militantes, qui sont là, qui organisent et qui font campagne tous les jours. Maintenant, j'appelle Raphaël.
Merci beaucoup, hein. Franchement, respect à vous pour être resté jusqu'au bout. On aurait pu être beaucoup plus nombreux et nombreuses s'il avait fait beau, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont l'habitude d'aller en manifestation pour être aussi déterminés à rester sur ce pont. Donc, lorsque j'ai préparé le discours, j'avais prévu de commencer par la notion de plaisir, de se retrouver toutes et tous ensemble. Je ne m'attendais pas à ce temps, mais le plaisir, pourtant, il est bien, il est réel. Et Sarah parlait de confiance. Dans notre candidature, c'est vrai qu'on se fait confiance parce qu'on se connaît depuis longtemps, toutes et tous sur le terrain. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes restés sous la pluie, malgré voilà, ce temps horrible, vous êtes restés pour le meeting. Donc, me voici candidat. Voilà, candidat pour les élections législatives. Donc, j'ai 27 ans, hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je suis jeune, c'est vrai. Je viens de la gauche de terrain, militante. Lorsque j'ai commencé à militer, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé un jour me retrouver ici, devant vous, en tant que candidat pour des élections. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions qui sont ressorties autour de moi, de la part de camarades, d'amis, et notamment l'idée que, voilà, Raph, tu vas pas trahir, hein. Vous savez, les gens qui me regardent dans les yeux, bon, là, on te fait confiance, t'y vas, mais tu nous la mets pas à l'envers, hein. Bon, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que, normalement, je vais pas vous la mettre à l'envers. C'est que déjà, je viens de cette gauche de terrain. Je la connais comme vous toutes et tous, comme malheureusement trop peu de personnes qui aujourd'hui sont censées être nos élus, nos représentants. Parce que si je travaille, tout simplement, je suis assistant d'éducation, je suis payé au SMIC, je sais ce que c'est lorsqu'on nous parle d'augmentation des prix, lorsqu'on nous parle de baisse des salaires, de précarisation, de suppression des APL, et toute cette connerie qu'aujourd'hui le candidat NUPES a voté pendant des années et a défendu pendant des années. Et aussi, évidemment, une fois élu, on va se battre pour qu'il y ait un contrôle des élus. Et ça passe notamment par l'idée qu'on puisse les révoquer, ces élus, lorsqu'on juge qu'il ou elle ne respecte pas leur mandat. Ça s'appelle le référendum révocatoire. C'est l'idée que, lorsqu'ils ne respectent pas leur mandat, on puisse poser en référendum le fait qu'ils aient droit ou non de continuer leur mandat. Ça passera évidemment aussi par des mesures qui tiennent nos élus. Donc, comme beaucoup, je viens de cette gauche militante, comme je vous l'ai dit, qui pendant des années avaient perdu espoir envers cette gauche institutionnelle, ces personnes qui se faisaient élire en notre nom, en nos combats, et qui ne nous ont jamais respectés, jamais regardés, et jamais finalement fait appliquer les programmes que l'on souhaitait. Je viens de cette gauche, et pourtant, on s'est dit au vu de la période qu'il y avait tout un intérêt à y aller. Déjà au vu de la période, au vu de l'urgence climatique, politique, économique, sociale, il y avait une urgence à y aller. Et évidemment, j'en parlerai plus tard, la question de l'extrême droite, ça avait tout son sens. Que nous qui connaissons trop bien ces énergumènes, d'y aller, de les confronter droit dans les yeux et de les faire reculer. Ouais. Il y a aussi, qu'on ne se mente pas, il y a eu cette séquence présidentielle. Je sais qu'ici, il y a des camarades du NPA, il y a certainement des anarchistes, des révolutionnaires convaincus. N'empêche que cette séquence présidentielle, elle nous a montré, à travers notamment la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qu'aujourd'hui, il était possible, à nouveau, de faire du lien entre cette gauche du terrain et cette gauche, soi-disant institutionnelle, complètement déconnectée. Il était possible, à nouveau, de redonner espoir à toute une partie de la jeunesse, à une partie des quartiers populaires qui ne votaient plus par trop d'exception et qui aujourd'hui ont repris la confiance pour aller voter, pour reprendre leur avenir en main. Et c'est cette confiance aussi qui nous a été donnée dans la séquence présidentielle, qui nous a donné l'envie d'y aller aujourd'hui. Donc cette séquence présidentielle, au niveau émotionnel, c'était un peu les montagnes russes, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que l'avant-présidentiel, il y a eu ces espèces de teasers de l'horreur. On nous sortait sondage après sondage, Éric Zemmour à 15%, Marine Le Pen à plus de 20%, Macron qui pétait les scores, Mélenchon, je crois qu'il était à 8%, un truc comme ça. Bon voilà, 11% après, un peu plus tard. En tout cas, voilà, on avait tous ces teasers de l'horreur, ces débats aussi, avec des idées puantes qu'on nous ramenait sur tous les plateaux. Et puis, il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir d'une véritable candidature de gauche, de rupture, comme je l'ai dit il y a quelques instants, qui nous a fait vibrer un peu, même dans les derniers moments. Même lorsqu'au second tour, il y a eu les résultats, vous savez, vers 22h et quelques, ouais. On y croyait encore. On se disait, hey, les bureaux de vote, c'est pas encore tout fini, c'est encore possible. Vas-y, Jean-Luc, on va le faire. Bon, mais s'il ne pouvait plus rien faire. Hein. Et nous non plus, d'ailleurs. En tout cas, il y a eu quand même ce truc d'espoir. Et bim, on se retrouve quand même au second tour avec l'inévitable duel Macron-Le Pen. À nouveau, on se retrouve avec cette dualité horrible de se dire c'est où l'extrême droite, où les gens qui nous conduisent tout droit à ce chaos avec ces politiques libérales qu'on subit depuis maintenant 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui nous mènent inévitablement avec l'extrême droite aux portes du pouvoir. Donc c'est vrai qu'on s'est réveillé le lendemain de cette élection présidentielle avec, vous savez cette expression, on avait la gueule de bois. Mais moi je pense qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup plus la gueule de bois que nous. C'est cette gauche, cette fausse gauche qui était censée nous représenter, qui elle, pour le coup, s'est vraiment réveillée avec la gueule de bois. Anne Hidalgo, 2%. Yannick Jadot, bon, il n'a pas remboursé ses frais de campagne. Bah eux, je peux vous dire qu'ils ont eu la gueule de bois lorsqu'il y a eu les rendez-vous sur les tables pour parler des législatives et qu'on leur a dit « Non mais là, en fait, il n'y a pas moyen, le programme, ça va être un vrai programme de rupture, un programme contre les politiques libérales, contre les politiques réactionnaires. » Et ça, ça a dû leur faire tout drôle de se dire qu'ils n'allaient plus jamais rien faire sans nous, sans la gauche de terrain, sans nous communs. Donc c'en est fini ce qu'on est venu dire aussi avec cette candidature. Même si le gars, il arrive avec sa petite étiquette Newpes, même s'il y a plein d'espoir, c'est vrai, dans cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est mort. On baissera plus les yeux. On va les confronter, ces gens-là. Et on va se défendre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc c'est une candidature qui vient du cœur, mais aussi de la raison. Du cœur, parce que derrière cette candidature, il y avait une histoire de dignité. De dignité à aller les confronter, de montrer qu'on ne se laissera pas faire, comme je vous l'ai dit juste avant. Et aussi la raison. La raison parce qu'on pouvait pas laisser un candidat aller se pointer à l'Assemblée et finalement se barrer au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, il n'appliquera pas ce programme. Parce que c'est pas dans son ADN politique. C'est contraire à tout ce qu'il a défendu tout au long de sa carrière politique. Et qu'il fallait une vraie candidature de gauche qui aille appliquer ce programme. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'y va pas seulement par dignité, seulement par rancœur, mais aussi par l'espoir et la volonté de faire appliquer ce programme de rupture. Je reprends mes petites notes. J'ai bien fait. Hein. Normalement, c'est un peu plus chaotique. Donc, comme je disais, contrairement à tous ces élus qui étaient censés nous représenter, nous, on le connaît, ce coût de la vie. On sait ce que c'est l'inflation. Là, il n'y a encore pas plus tard que ce midi, j'allais faire mes courses, hein, comme pas mal de monde. Bon, prix assez cher. J'ai pris des tomates cerises et de la mozza. Ça pique. Hein. On a l'impression qu'on va au resto pour faire une salade. Somme toute, pas non plus luxueuse, hein, même si on se fait un peu plaisir. Et dans le même temps, il y a une camarade sur le fil d'ailleurs de la campagne qui a envoyé un screenshot là, de BFM TV. Donc ils étaient en direct, bon j'ai pas vu cette séquence malheureusement, mais j'ai vu le screen. Ils étaient en pleine séquence pour expliquer aux gens, ils sont bienveillants nos capitalistes, hein. Ils nous expliquaient comment faire face à l'inflation. Ils sont gentils hein, quand même, hein. Ils veulent nous aider. Hein. Lisa, c'est vrai que les prix augmentent. Bon, vos salaires, non, mais les prix augmentent. Mais on va vous montrer comment faire. Et je vous jure, parce que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, hein, si vous voulez aller voir le screen, je vous jure que c'est vrai. Ils ont mis ne pas faire ses courses quand on a faim. Je vous jure que pour les capitalistes, une des solutions, mais je veux dire, ils ont même plus honte, quoi. Les mecs, ils sont là sur les plateaux, ils nous disent, bon, ok, c'est la merde, si vous avez faim, ben, mangez pas, parce qu'on sait cher, on a peur que, voilà, vous prenez un peu cher. Non, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Ils ont même plus honte de nous dire d'arrêter de manger, quoi. Donc il est temps de retourner un peu tout ça et d'envoyer des gens comme nous à l'Assemblée. Il est grand temps. Il est grand temps pour nous vivre. Il est grand temps pour avoir des meetings. Et les meetings, ça passe par l'augmentation des salaires, de tous les salaires. Parce que lorsqu'on augmente le SMIC à 1500 euros minimum, de fait, ça a une répercussion sur l'ensemble des salaires. Parce que la personne qui a 1500, eh ben, elle va vouloir se battre pour avoir plus. C'est logique. Donc ce serait une augmentation de tous les salaires. Dès maintenant, le blocage des prix, évidemment, le blocage des prix de l'essence, de l'énergie, de toutes les denrées alimentaires. L'allocation jeune, évidemment, comme en a parlé Mathilde Mia juste avant, l'allocation jeune de 1063 euros, c'est pas énorme, c'est juste au-dessus du seuil de pauvreté, et pourtant, combien nécessaire? Parce que toutes et tous ici, je pense qu'on a connu cette période où on a connu des études et on devait travailler en même temps. On sait la galère que c'est. On a vu le nombre de gens autour de nous qui ont dû arrêter leurs études tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre. Et ben nous, on veut le dire à ces jeunes qu'ils ont le droit de vivre, d'étudier, d'apprendre, de s'élever dans la société et de la construire. Et alors, on m'a dit, sur cette partie un peu programmatique, vas-y Raph, il y a un maximum de choses du programme, etc. Bon, je peux pas tout dire, hein, évidemment, sinon ça prendrait des plombes. Mais il y a quand même un truc que je trouvais important à dire, c'est qu'on a la première ministre, Elisabeth Borne, vous la connaissez, qui a enchaîné hein, les provocations envers les pauvres, hein. Elle a une véritable haine des pauvres, on va pas se mentir. Et elle a refait une déclaration il y a quelques jours, un peu dans le style « le travail, c'est la santé ». Elle a fait un truc en mode, voilà, le travail c'est l'émancipation, blablabli, blablabla. Bon, tout le truc un peu habituel des libéraux. Et je tenais à rappeler quand même une mesure qui pour nous tenait à cœur, c'est la 6e semaine de congés payés. Parce que le message que je voulais envoyer à Elisabeth Borne, c'est que l'émancipation, madame Borne, c'est justement quand ces rares moments de notre vie, on arrive à s'échapper du joug capitaliste, de l'exploitation, de nos patrons, parce qu'on construit avec nos familles, avec, pour la chance de quelques-uns, un potager dans un jardin, qu'on part en voyage, qu'on s'inscrit dans l'associatif, qu'on s'inscrit dans le militantisme, comme aujourd'hui. C'est ces rares moments de vie qu'on a besoin. Et c'est pour ça que ça me semble important de défendre ces 6e de semaine de congés payés, parce que c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on s'émancipe, et certainement pas au travail, dans ces conditions. Donc, toutes ces mesures sociales, évidemment, ça va avec l'idée du respect de l'humain, de tous les êtres humains que nous sommes ici, aujourd'hui, rassemblés. Mais on est toute une génération militante à avoir compris que ce respect de l'humain ne pouvait être déconnecté du respect de l'ensemble du vivant et de la planète. On est nombreux et nombreuses à avoir compris que lorsque on mettait en place des politiques qui respectent la planète, c'était bon pour l'humain. Et inversement, lorsqu'on met en place des politiques qui sont bonnes pour l'humain, de fait, ça a des bonnes répercussions sur l'ensemble du vivant et sur la planète. A l'inverse, il y en a qui n'ont pas bien compris cette logique, et je parle ici des ultra-riches, notamment des milliardaires. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Arnault. Bon, c'est un très très riche. Bon, il a le même nom, hein. C'est pas mon papa, sinon je serais certainement pas ici à vous raconter ces choses-là. Donc Bernard Arnault, c'est un gars, il a 150 milliards de fortune. Bon là, j'imagine que je vous ai perdu, 150 milliards, ça nous paraît tellement loin que voilà. 150 milliards de fortune, c'est équivalent à 100 millions de SMIC à 1500 euros. Donc une fois qu'on sera élu. Et tout ça, c'est, imaginons moi par exemple qui suis au SMIC, imaginons que je touche 1500, que je mette tout de côté. Hein. Je dépense rien, j'ai pas de loyer, je vais pas au cours, je dépense rien. Il me faudrait pour atteindre la fortune de Bernard Arnault, exactement 8,3 millions d'années. Ça fait beaucoup. Et on s'est dit qu'on n'allait pas attendre tout ce temps-là, qu'on allait aux élections et qu'on allait changer les règles pour que nous aussi on ait droit à une vie digne. Et pourquoi je vous parlais de ce cher Bernard Arnault? C'est parce que ce cher Bernard Arnault, qui a construit toute sa fortune, ses 150 milliards d'euros, en nous exploitant évidemment, en se nourrissant du fruit de notre travail, ce cher Bernard Arnault, il est à Londres, il veut se déplacer à un autre bout de Londres. Imaginez, vous êtes à la Croix-Rousse, vous voulez aller, j'en sais rien, moi, dans le 8e arrondissement, et bien lui, il prend un jet privé. Il a fait un trajet de 10 minutes. Il y a deux jours, là, il a fait un trajet de 10 minutes dans Londres, en jet privé. Et, mais surtout, vous savez, c'est les gens qui défendent ces libéraux qui nous disent « Faites pipi dans la douche pour économiser de l'eau, tout ça. » Voilà. Donc on en est là, on en est à une situation où il y a des extrêmes milliardaires, des extrêmes riches, qui nous regardent, qui nous exploitent au jour le jour, qui détruisent notre planète, qui la saccagent, et qui voudraient que c'est nous qui la payons, cette crise. Ben, on les regarde droit dans les yeux, on va leur dire que c'est pas nous qui allons la payer, ni leur crise économique, ni leur crise sociale, ni leur crise écologique, ni leur crise politique. C'est eux qui vont la payer. Parce que qui subit véritablement la pollution? Qui subit le fait que des appartements, des maisons ne soient pas assez isolés pour chauffer correctement l'hiver? Qui subit le fait de galérer pour se déplacer? Qui subit la malbouffe? Bah, c'est les classes les plus populaires, encore une fois. Donc comme je le disais, évidemment, lorsqu'on va avancer sur la question écologique, il faut que ça soit inévitablement associé à la question sociale. Alors méfiance quand même sur cette question écologique, et on en a la preuve ici sur cette circonscription, parce qu'aujourd'hui il y a des libéraux qui ont bien compris que pour se faire élire, ça pouvait marcher l'étiquette écologique. Du coup c'est devenu à la mode, comme le candidat ici sur cette circonscription, de se faire passer pour écologique. Mais qu'on s'y trompe pas, ces gens-là sont profondément des menteurs, même si aujourd'hui il y en a certains qui nous parlent de planification écologique. Ouais, il y en a des libéraux aujourd'hui qui parlent de planification écologique. Bon, ils ont juste oublié que dans planification écologique, il y avait planification. Vous savez, cette chose qui est à la totale inverse de la libre économie de marché. C'est l'idée, la planification économique écologique, c'est l'idée qu'on reprenne contrôle sur nos vies. C'est l'idée qu'on reprenne contrôle sur les ressources, sur l'exploitation, sur la façon dont on produit, la façon dont on travaille. C'est ça la planification. C'est notre programme. Et oui, on va l'appliquer, la planification écologique. C'est la dernière feuille. Merci d'être resté. Hein. Encore et toujours. Donc évidemment, vous vous en doutiez, en venant ce soir, j'imagine, je voulais aussi vous parler de la question de la lutte contre l'extrême droite, qui est ô combien importante. Il y a quelques jours, camarades, on célébrait encore tristement la mort de Clément Méric, militant antifasciste, assassiné par des fascistes, roué de coups, dans les rues de Paris. Et à peine quelques jours encore, on arrêtait des militants avec des caisses d'armes qui préparent des attentats terroristes au jour le jour. Toutes les semaines, on en arrête comme ça des terroristes d'extrême droite. Jusqu'à quand? Cette violence de rue, elle est extrême. Et malheureusement, elle est directement liée au fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite infuse ses idées de partout, notamment avec des milliardaires comme Vincent Bolloré, qui détient CNews, CMI et compagnie. Vincent Bolloré, qui, on le rappelle, a construit sa fortune en pillant l'Afrique, et qui aujourd'hui nous envoie des mecs comme Éric Zemmour qui nous regardent droit dans les yeux pour nous dire « Eh ben, il y a des gens d'Afrique qui viennent vous remplacer, alors que le mec, il a construit toute sa fortune en les pillant, ces gens-là. C'est des ordures, c'est des racistes. » Donc ces idées d'extrême droite, elles sont partout. Et notamment, elles existent parce que dans nos rues, aujourd'hui, il y a des locaux d'extrême droite. Et c'est une situation qu'on connaît trop bien à Lyon. Il en reste aujourd'hui deux, les locaux de Génération Identitaire. Vous imaginez bien une fois qu'il y a eu, que je vais pas les lâcher, ces gens-là. Et qu'on va se battre pour que la préfecture, on les ferme. On va les fermer, ces locaux, dans notre ville. Il y aura une bataille aussi au niveau idéologique. Évidemment, une grosse bataille à mener partout, dans les médias, au niveau politique. Et on porte aussi une responsabilité énorme à toutes ces politiques libérales qui nous ont plongés dans la misère ces 20, 30, 40 dernières années, notamment avec ce gouvernement qui continue encore plus belle. Et au-delà même des politiques libérales qui aujourd'hui mènent une véritable politique autoritaire, raciste, il faut le dire, c'est ce chemin qu'a choisi de prendre le gouvernement jusqu'au plus haut sommet de l'État et reprennent des thématiques de l'extrême droite. On a des ministres de l'éducation qui nous parlent de wokisme, d'islamo-gauchisme. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est le programme de Génération Identitaire. Je prends l'exemple aussi d'un Gérald Darmanin.
ministre de l'Intérieur, qui regarde droit dans les yeux la plus grande islamophobe de France, Marine Le Pen, et qui nous dit « Madame, sur la question de l'islam, vis-à-vis des musulmans, je vous trouve trop molle. » C'est ça aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur. Stop à la déferlante raciste. Stop à la haine des musulmans. Il y en a marre de ces gens au gouvernement et partout, même dans des gens qui iraient de gauche. Marre de cette gauche qui trempe des genoux lorsqu'on lui parle d'islamophobie, lorsqu'on lui parle d'antisémitisme. Il faut une gauche forte, fière, qui la regarde droit dans les yeux et qui dit stop, c'est fini de massacre. Ça suffit, c'est pas notre modèle de société. On va pas se laisser faire, on va se battre toutes et tous ensemble contre l'extrême droite. On va les faire reculer parce que c'est certainement pas eux et elles la solution. C'est nous avec le programme de rupture. Donc pour ça, il faut une gauche sociale, écologique et vraiment populaire. C'est le projet qu'on a tenté de défendre durant cette campagne et qu'on va continuer de défendre une fois élu, évidemment. Et je vais clôturer sur ce slogan de notre camarade Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'un autre monde est possible. Donc je lui réponds oui, c'est vrai, un autre monde est possible. Mais aussi, on tient à le rappeler, nous, militantes et militants de terrain, qu'un autre monde ne sera possible à la seule condition que l'on impose de partout que nos vies valent plus qu'un profit. Merci à toutes et tous, merci à vous d'être venus.
Alors je sais pas vous.
Je compte sur vous pour faire tourner le mot maximum. Faut aller voter, faut mobiliser les gens.
Mais moi dimanche.
Voilà, allez parler au maximum de gens autour de vous. N'hésitez pas aussi à croiser les militants voilà, qui ont des bases, notamment Mélenchon, du NPA, pour les inclure dans cette campagne. Si vous voulez participer, il reste quelques jours.
J'irai voter Raphaël.
Sur les marchés, du porte-à-porte, du tractage, on a besoin de monde. Parce que nous, notre force, si on n'est pas blindé de thunes, si on n'a pas cette étiquette de ces grosses organisations électorales, c'est notre force, c'est le terrain. On va le faire, on va les faire reculer. Et j'espère qu'on va gagner, camarades. Merci à tous.
Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Hubert Julien Laferrière, je vous remercie.
Merci à vous.